Il est 14h à Paris, 1h de moins en temps universel, 9h à Port-au-Prince et à Miami.
RFI Midi.
Clotilde Dumais.
La dernière demi-heure de RFI Midi sur le continent américain avec d'abord cette interview à suivre dans une dizaine de minutes, celle du nouveau recteur de l'Université d'État d'Haïti, forcément concerné également par le climat d'insécurité qui règne à Port-au-Prince.
Certains bâtiments facultaires ont été pillés, voire incendiés. En attendant que la situation revienne à la normale, nous faisons de notre mieux pour assurer la continuité académique dans les meilleures conditions possibles.
Adieu seul Prédélus, interrogé par le correspondant de RFI à Port-au-Prince. Nous serons aussi à Miami alors que l'administration Trump a décidé de mettre fin au statut légal de plus de 500 000 migrants latino-américains. On entendra leur inquiétude. Et puis l'actualité des Outre-mer. Bonjour Serge Massot.
Bonjour, on parlera des infirmiers libéraux qui sont appelés à cesser le travail aux Antilles en Guyane suite à deux agressions d'infirmières la semaine dernière en Guyane.
A tout à l'heure Serge, mais d'abord le journal international. Bonjour Juliette Pietraszewski.
Bonjour.
L'Union européenne exhorte la Turquie à respecter les valeurs démocratiques.
La Grèce juge aussi la situation dans le pays préoccupante. Des réactions internationales après le placement en détention du maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, principal rival du président turc Erdogan, démis officiellement de ses fonctions, accusé de corruption. Il dénonce une exécution sans procès et a déclaré qu'il ne reculerait pas d'un pouce. Les avocats d'Ekrem İmamoğlu ont annoncé qu'ils feraient appel de cette décision, mais les moyens de l'élu emprisonné restent limité, Anastasia Becchio.
Le système judiciaire turc ne bénéficie pas d'une grande autonomie et les événements de ces derniers jours n'incitent pas à l'optimisme pour cette personnalité populaire qui est devenue l'ennemi numéro un de Recep Tayyip Erdogan. Le président et son parti, l'AKP, seront tentés de tout faire pour ne pas voir leur pouvoir menacé. L'élu avait déjà été condamné dans le passé pour des charges fantaisistes, selon ses soutiens. La semaine dernière, son diplôme universitaire a été annulé, ce qui le rend inéligible pour des élections à venir. Malgré cela, son parti l'a investi candidat en vue de l'élection présidentielle de 2028 à l'issue d'une primaire à laquelle 15 millions de personnes ont pris part, selon le CHP. Lorsqu'il a été placé en garde à vue la semaine dernière, le maire d'Istanbul était accusé de corruption et de terrorisme. Finalement, le juge qui a ordonné son placement en détention n'a retenu que la première charge. La conséquence, c'est que même si l'édile a été suspendu de ses fonctions, la mairie d'Istanbul reste aux mains de l'opposition du CHP. Selon le gouvernorat, le conseil municipal d'Istanbul doit élire un maire adjoint dans la semaine.
Anastasia Becchio. Et en parallèle, les manifestations de protestation en Turquie se poursuivent en dépit des interdictions des autorités. Ce matin, 10 journalistes qui avaient couvert les manifestations ont été interpellés à leur domicile à Istanbul et à Izmir.
À Gaza, le Hamas annonce près de 730 morts depuis la reprise de la guerre et des opérations militaires israéliennes la semaine dernière.
L'armée israélienne qui intensifie ses opérations. Ce matin, 21 personnes ont été tuées à Rafah, dans le sud du territoire palestinien, selon les autorités sanitaires. Muriel Paradon.
Oui, 50 000 personnes seraient actuellement bloquées à Rafah selon la sécurité civile, des milliers prises au piège dans le quartier de Tel al-Soutan où l'armée israélienne a envoyé ses troupes et le bilan est déjà lourd depuis ce matin. Vous l'avez dit, 21 morts. Les Israéliens intensifient aussi leur bombardement aérien. On peut voir sur les réseaux sociaux ces dernières heures des images de zones habitées, de camps de tentes pris pour cible. Hier, c'est l'hôpital de Khan Younes plus au nord qui a subi une frappe. Un responsable du bureau politique du Hamas était visé. Il a été tué. Un jeune homme de 16 ans qui se faisait soigner dans l'établissement est mort également dans ce bombardement et plusieurs membres du personnel médical ont été blessés. Israël affirme avoir repris ses opérations militaires à Gaza dans le but de forcer le Hamas à libérer les otages, brisant ainsi l'accord de cessez-le-feu qui prévoyait des négociations justement autour de ces libérations. En moins d'une semaine, plus de 700 Palestiniens ont été tués et ce sont en majorité des civils.
Les précisions de Muriel Paradon du service international de RFI. Toujours au Proche-Orient, en Israël, un mort et un blessé dans un attentat dans le nord aujourd'hui. L'assaillant a été neutralisé selon la police. C'est le premier attentat en Israël depuis que l'armée israélienne a rompu la trêve avec le Hamas dans la bande de Gaza en reprenant ses bombardements le 18 mars dernier.
Des discussions à Riyad en Arabie Saoudite actuellement en cours entre Russes et Américains.
Objectif, instaurer une trêve partielle en Ukraine 3 ans après le début de l'offensive russe. Ces négociations ont été qualifiées d'emblée de difficiles par le Kremlin. Les Américains ont également rencontré hier jusque tard dans la nuit des responsables ukrainiens. De son côté, Kiev se dit prête à un cessez-le-feu général sans condition. Américains et Ukrainiens souhaitent à minima un arrêt provisoire des frappes sur les sites énergétiques largement endommagés en Ukraine. Pour l'instant, les troupes de Moscou n'ont pas expulsé les soldats ukrainiens de la région russe frontalière de Koursk. Et en France, l'Ukraine est aussi le sujet des discussions d'une cinquantaine de dirigeants centristes européens aujourd'hui, réunis à Paris à l'initiative du patron de Renaissance, Gabriel Attal, et de la présidente du groupe Renew au Parlement européen, Valérie Hayer. Il y a plusieurs objectifs pour ce sommet pour la démocratie, soutenir l'Ukraine, mais aussi faire front commun face à ce qu'Emmanuel Macron a appelé récemment l'international réactionnaire. Sur place à la Cité internationale de Paris, notre reporter Victorien Villaume.
Des drapeaux européens et français et un grand tapis bleu pour accueillir les invités dans l'édifice en pierre, symbole de la rencontre des cultures. Surtout des députés européens réunis par Gabriel Attal, patron de Renaissance.
On a souhaité réunir des représentants politiques, des chefs de parti qui défendent une même conception de la démocratie, des valeurs de liberté d'expression, d'égalité entre les femmes et les hommes.
Parmi les objectifs, s'organiser face au rouleau compresseur réactionnaire, façon de désigner l'extrême droite et des figures comme Elon Musk. Autre intérêt du sommet, montrer un soutien inconditionnel à l'Ukraine.
On se bat au niveau national avec Renaissance pour un certain nombre d'enjeux, notamment la saisie des avoirs russes. Si on est capable, avec des partis politiques de toute l'Europe, de parler d'une seule et même voix sur ce sujet-là, ça pourra faire progresser les choses.
En tout, 25 pays européens sont représentés et il n'y a jamais trop d'occasion de montrer son soutien à Kiev, témoigne Michal Kobosko, député européen de Pologne.
Surtout pour nous qui vivons à l'est de l'Europe, on pense qu'on doit stopper Vladimir Poutine en Ukraine car il ne s'arrêtera pas à l'Ukraine. Et si on ne l'arrête pas, il continuera ailleurs en Europe.
Après 2 heures de réunion à huis clos, le sommet doit déboucher sur une déclaration commune autour d'engagement pour l'Ukraine et la défense.
Victorien Villaume à Paris.
Et en dehors du dossier ukrainien, un autre sujet fait l'actualité, cette fois-ci aux États-Unis, c'est la politique migratoire de Donald Trump.
Un avion en provenance du Honduras avec à son bord 199 migrants expulsés des États-Unis est arrivé tôt ce matin au Venezuela, ce qui marque la reprise des vols de rapatriement après un différend avec le président américain. Le Venezuela, qui est également pris de court par le changement climatique, il n'y a plus assez d'eau pour alimenter les barrages qui génèrent 80% de la production électrique vénézuélienne. Les autorités viennent de se résoudre, comme à la fin des années 2010, à des mesures radicales d'économie d'énergie en plaçant les administrations publiques au service minimum. Vincent Souriau.
Les guichets ne seront ouverts que le matin, entre 8h et midi et demi, et les autorités imposent en outre la règle du 1 pour 1. Pour chaque jour de travail, les fonctionnaires devront prendre un jour de congé. Autrement dit, la plupart des administrations seront fermées la moitié de la semaine. À l'exception, précise le gouvernement, des organismes qui fournissent des services essentiels à la population, santé, sécurité ou transport public. Tous les Vénézuéliens sont appelés à participer en faisant la chasse au gâchis d'énergie, débrancher les appareils électroniques lorsqu'ils ne servent pas, régler la climatisation et ne pas descendre sous les 23 degrés ou s'appuyer sur la lumière naturelle pour limiter le recours à l'éclairage artificiel. Le Venezuela parle d'une stratégie qui vise à réduire l'exposition aux chaleurs extrêmes dans les bureaux, protéger la santé des travailleurs et assurer la continuité du service public sans, je cite, compromettre le bien-être social.
Vincent Souriau. En France, le procès de Gérard Depardieu s'est ouvert à Paris il y a quelques minutes devant le tribunal correctionnel. Après un renvoi à l'automne, l'acteur, rattrapé par la vague hashtag MeToo en France, est donc jugé à Paris, accusé d'agression sexuelle sur 2 femmes lors d'un tournage. On y reviendra dans une prochaine édition. RFI Midi continue avec vous, Clotilde.
Et c'était le journal de Juliette Pietraszewski. Merci.
RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques.
Elle n'est pas non plus épargnée par l'insécurité qui gangrène le pays. À Port-au-Prince, l'université d'État d'Haïti traverse l'une des périodes les plus sombres de son histoire. Pillages, incendies, fermetures forcées, plusieurs de ses facultés, notamment celles situées en bas de la ville, sont à l'abandon. Des milliers d'étudiants se retrouvent sans salle de classe, contraints d'errer dans les rues ou de suivre leurs cours à distance. Face à cette crise sans précédent, le nouveau recteur de l'université, Diosel Predellus, et son équipe tentent donc de sauver l'année académique comme ils le peuvent. Entre la relocalisation des facultés, le renforcement de l'enseignement en ligne, quelles sont les solutions envisagées ? Eh bien, le recteur revient sur les défis actuels et expose les priorités de son mandat. Il est interrogé par le correspondant de RFI à Port-au-Prince, Peterson Luxama.
Bien que l'Université d'État d'Haïti ne dispose pas de compétences directes pour lutter contre l'insécurité que nous traversons actuellement, elle a néanmoins un rôle fondamental à jouer dans la construction de la paix sociale. Il faudra penser rapidement à apporter des réponses ponctuelles à la situation des entités gravement frappées par la crise sécuritaire actuelle afin de sauver l'année académique. Vous le savez déjà, l'insécurité et le banditisme qui s'abattent sur le pays, l'université en paye le plus fort. Certains bâtiments facultaires ont été pillés, voire incendiés ou partiellement détruits. Nous devons absolument trouver des solutions provisoires pour reloger nos entités sans que cela ne nous dispense de la réflexion plus approfondie sur la question de l'espace à l'université et de sa réorganisation.
Plusieurs facultés, notamment celles situées aux abords de l'avenue Christophe, ont été contraintes de fermer leurs portes en raison de l'insécurité. Comment comptez-vous gérer cette situation, monsieur le recteur?
Votre constat est tout à fait juste. Il faudra penser à des solutions de relocalisation, comme je viens de le souligner plus haut, et au renforcement des courants lignes. Je dois souligner que l'un des piliers, on va dire, essentiels de mon programme que j'avais présenté lors de ma campagne, c'était l'innovation technologique. Cette dimension technologique est cruciale, notamment pour le renforcement de la formation en ligne. Je dois dire aussi que cette démarche est fondamentale car la crise exige des solutions urgentes et adapté.
Plus de 28 000 étudiants de l'Université d'État d'Haïti se retrouvent aujourd'hui dans les rues. Que deviennent les étudiants? Comment reçoivent-ils leurs cours? Existe-t-il encore des endroits pour relocaliser les cours?
Certains cours sont dispensés en présentiel. Je vais prendre par exemple à l'École normale supérieure, on travaille à Canapé Vert et à PACO. Et en présentiel, il y a la faculté des sciences aussi qui donne des cours. Et en présentiel, il y a certains cours et qui sont dispensés actuellement en présentiel, d'autres en ligne. C'est la méthode hybride et tout le monde en parle actuellement. Nous devons nous adapter aux nouvelles réalités du pays tout en préservant la qualité de l'enseignement que nous offrons à nos étudiants. Ainsi, en attendant que la situation revienne à la normale, nous faisons de notre mieux pour assurer la continuité académique dans les meilleures conditions possibles.
L'insécurité frappe de plein fouet l'université. Aujourd'hui, l'UEH fait également face à une fuite des enseignants. Certains, confrontés à des conditions de travail difficiles, sont obligés de quitter le pays ou de s'installer en province. Comment comptez-vous aborder cette question?
Alors, l'une des solutions immédiates est de promouvoir l'enseignement en ligne. Nous encourageons nos enseignants à utiliser les outils numériques mis à leur disposition pour continuer et à travailler en ligne. Parce qu'au niveau de l'administration centrale, on a développé pas mal d'outils pour faciliter la formation en ligne. Ces initiatives, on peut dire que ça va leur permettre de poursuivre leur engagement pédagogique vis-à-vis des étudiants, tout en garantissant leur sécurité. Nous devons les accompagner aussi à penser à la relève académique. Il faudra former plus de professeurs au plus haut niveau pour assurer cette relève académique.
Le rectorat avait lancé, dès 2022, un processus de numérisation des documents essentiels de l'université. Où en est ce processus et à quoi sert-il?
C'est un projet essentiel pour l'université, mais malheureusement, cela a pris du retard. Il est essentiel de numériser les documents essentiels de l'université parce que avec les bandits qui ne cessent de prendre plus d'espace, plus de territoire, donc on doit prendre des mesures urgentes pour numériser rapidement les documents essentiels de l'université.
Dieu seul, Prédélus, le nouveau recteur de l'Université d'État d'Haïti, interrogé par Peterson Luxama.
RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques.
Pas de temps à perdre pour Marc Carnet aux États-Unis. Le nouveau Premier ministre a décidé hier d'organiser des élections législatives anticipées moins de 2 semaines après sa nomination. Il mise sur une campagne éclair pour conserver son poste. Les électeurs trancheront donc le 28 avril à l'issue d'une campagne déjà marquée par les tensions commerciales avec les États-Unis. Reportage de Nafi Alibert.
Les pancartes se dressent, les visages des candidats envahissent petit à petit les rues de Montréal. Les militants et les bénévoles s'activent pour afficher les couleurs de leur parti. Chaque minute compte, les candidats ont seulement 36 jours pour séduire les électeurs. Si l'effervescence électorale gagne toutes les formations politiques, c'est le face-à-face entre les libéraux de Mark Carney et les conservateurs de Pierre Poilievre qui retient l'attention. Les deux hommes se présentent comme les seuls capables de défendre le Canada face à Donald Trump, alors que les tensions avec les États-Unis s'imposent comme le thème central de cette campagne. Mark Carney appelle les Canadiens à lui accorder un mandat fort, une majorité claire qui lui permette de lutter contre Donald Trump. Pierre Poilievre, lui, se veut comme l'incarnation du réel changement dont le Canada a besoin après les 3 mandats consécutifs des libéraux à Ottawa.
Mettons le Canada d'abord pour faire changement, avec un nouveau gouvernement conservateur.
La lutte s'annonce serrée avec un écart réduit entre ces deux grands partis en ce début de campagne. Et ce duel entre libéraux et conservateurs pourrait laisser peu de place aux autres formations comme le Nouveau Parti démocratique ou le Bloc québécois qui devront redoubler d'efforts pour maintenir leur influence au Parlement. Nafi Alibert, Montréal, RFI.
Une campagne électorale canadienne déjà marquée par la guerre commerciale avec les États-Unis. Bonjour Marine de la Moissonnière.
Bonjour.
Et c'est aussi ce que met en avant la presse canadienne.
Oui, une campagne à l'ombre des États-Unis, estime The Star de Toronto, qui souligne que tous les candidats ont mentionné le nom de Donald Trump dans leur discours hier. Mais toute la campagne ne se fera pas autour des liens entre le Canada et les États-Unis. Pas question d'agiter Donald Trump tel un épouvantail, met en garde le chef du Bloc québécois, rapporte Le Devoir. Les Québécois ont la couenne dure au point que l'argument de la peur ne sera pas très efficace, avertit Yves-François Blanchet. Et ça, Marc Carney l'a bien compris. Il a surpris tout le monde en promettant dès hier des baisses d'impôts pour la classe moyenne, souligne The Star, pour qui le Premier ministre cherche à montrer qu'il est un homme d'action et qu'il ne compte pas mener la même politique que Justin Trudeau. Les États-Unis et l'économie, ce seront donc les deux thèmes majeurs de cette campagne, souligne Le Devoir.
Et aux États-Unis, justement, c'est l'État qui incarne peut-être le mieux le rêve américain, avec le soleil, les plages, les palmiers, la Floride, terre d'accueil pour de nombreux latino-américains qui pendant longtemps y ont été pratiquement chez eux. Sauf que depuis l'élection de Donald Trump, les choses ont brutalement changé pour les migrants, pour ceux qui n'ont pas de visa, mais pas seulement. Par ordonnance, le président républicain a ordonné ce week-end la suppression du statut légal de 532 000 Cubains, Haïtiens, Nicaraguayens et Vénézuéliens, statut instauré en 2022 par Joe Biden. Alors depuis ce revirement, la peur s'est emparée de nombreux migrants. Reportage à Miami de l'envoyé spécial de RFI, Eric Sanson.
Il y a plus de 15 ans, la Vénézuélienne Hélène Villalonga s'est battue pour obtenir la révocation de l'expulsion de son fils. À la tête de l'association multiculturelle d'activistes Voix et Expression, AMAVEX, elle se bat aujourd'hui pour défendre les droits de sa communauté d'environ 350 000 Vénézuéliens légalement enregistrés en Floride, car les temps sont difficiles.
En à peine un mois et demi d'administration Trump, les choses ont énormément changé et pas en bien pour la communauté vénézuélienne. Dès son arrivée, il a commencé par éliminer un bénéfice établi par l'administration antérieure, le vacatur, autre nom du TPS pour la communauté vénézuélienne.
Le TPS, c'est le statut de protection temporaire qui donne le droit à environ 1 million de personnes de rester aux États-Unis et d'y travailler tant qu'il n'est pas sans danger pour elles de retourner dans leur pays d'origine. En janvier dernier, les ressortissants de 17 pays ont bénéficié, mais la liste diminue. En février, le TPS a été annulé pour les Vénézuéliens comme Maria, le pseudonyme d'une jeune femme qui ne veut pas dire son nom par sécurité. Son TPS sera caduc début avril. Elle ne se sent pas protégée par l'asile dont elle bénéficie.
J'ai vu que des personnes ayant l'asile politique ont été expulsées, donc on a peur que ça nous arrive à nos proches ou à des amis. C'est confirmé parce que j'ai vu des interviews dans les médias de Colombiens expulsés qui disaient avoir l'asile, et de Vénézuéliens aussi.
José Antonio Colina est un officier qui en 2002 s'est soulevé sans succès contre le président vénézuélien Hugo Chavez. Après s'être exilé aux États-Unis, il a fondé l'ONG VPEX, Vénézuélien persécuté politique en exil. S'il est déporté, il ne se fait pas d'illusions sur le sort qui l'attend au Venezuela. Il regrette que les dernières vagues de migrants aient compromis l'image de sa communauté.
Malheureusement, tout le travail d'intégration fait pendant des décennies s'est perdu lorsque sont arrivés des délinquants qui ont épuisé la patience des Américains avec leurs crimes atroces. Moi, je comprends que cette administration souhaite expulser les délinquants, quelle que soit leur nationalité. Je suis d'accord et je suis prêt à aider, mais on ne peut pas traiter tous les Vénézuéliens de délinquants.
Dans le restaurant où elle travaille, Maria ne peut qu'approuver.
Nous, on ne se cache pas, car on a travaillé depuis notre arrivée. On paie nos impôts et on respecte la loi. On n'est pas des délinquants, et ce n'est pas parce qu'on est vénézuélien qu'on fait partie de la bande du train d'Aragua.
Munis en général d'un statut TPS ou de l'asile politique, les Vénézuéliens en Floride ne se cachent pas et peuvent facilement être trouvés par ICE, le service américain de l'immigration, note José Antonio Colina.
Le système sait où sont les Vénézuéliens. Il va te chercher et te trouver. Si tu as passé la frontière sans visa, en traversant le désert, tu n'as pas d'adresse et ils ne vont pas te trouver. C'est ça la réalité.
Un exemple parmi d'autres, ICE était récemment à la recherche d'un supposé délinquant vénézuélien pour l'expulser. Ce dernier n'était pas chez lui, mais les agents du service des migrations en ont profité pour arrêter sa mère, tout en remettant sa sœur handicapée à des voisins. Quelque part en Floride, où il a choisi l'exil, José Luis Calderón essaye d'oublier qu'il y a un peu plus d'un an, il était pris en otage à Guayaquil en direct à la télévision. Ce journaliste équatorien espère être protégé, mais il n'est pas serein.
Je ne prendrai pas de risque, même si je ne crois pas que l'on puisse m'expulser. J'ai une demande d'asile en cours de traitement, mes papiers sont en règle et j'ai le permis de conduire de Floride. Mais je ne vais quand même pas éviter de sortir de l'État pour ne pas avoir de problème.
Nouvelle difficulté pour les demandeurs d'asile, l'espagnol n'est plus reconnu par l'administration fédérale, comme le regrette la migrante équatorienne Marjorie Gortaire.
Maintenant que l'anglais est la seule langue officielle, les agences de l'État ne sont plus obligées de fournir des traducteurs ni de traduire leurs formulaires en espagnol ou en créole. Donc, si vous allez à un rendez-vous au service de l'immigration et que vous ne parlez pas anglais, vous devez y aller avec votre traducteur et le payer.
Au-delà des décisions fédérales prises à Washington, l'État de Floride a lui aussi durci sa législation. Les employeurs sont tenus de déclarer le statut migratoire de leurs employés et risquent des amendes considérables de 1 000 $ par jour s'ils emploient des clandestins. Une décision qui a déjà des conséquences imprévues, selon Hélène Villalonga de l'association Amavex.
Que vont devenir les propriétaires de fermes qui n'auront pas d'employés pour les récoltes? Eux-mêmes reconnaissent qu'il n'y a pas un Américain disponible pour cueillir une orange, pour supporter le soleil et les températures de Floride et récolter les légumes. Il n'y en a pas.
Dans l'espoir que la justice casse les décisions de l'administration américaine, de nombreux migrants comme Maria se font discrets.
Je sors moins, je vais au travail, j'emmène mon fils à l'école de baseball, aux courses et puis je retourne à la maison.
Le tout dans une tension croissante pour les migrants à la recherche d'un rêve américain chaque jour plus insaisissable. Eric Sanson, Miami, RFI.
Et toujours à propos d'expulsion, 199 migrants vénézuéliens ont atterri ce matin à Caracas en provenance des États-Unis via le Honduras. Après un mois d'interruption, les vols retour depuis les États-Unis ont donc repris Caracas et Washington. Elles s'accusaient mutuellement de ne pas respecter un accord conclu en janvier dernier.
RFI, la radio del mundo.
En Argentine, le président Javier Milei profite de l'anniversaire du coup d'État de 1976 pour s'en prendre une nouvelle fois aux victimes marines de la dictature. C'est ce que nous apprend la presse locale.
Ouais, comme le raconte La Nation, à l'occasion du 24 mars, le gouvernement a publié sur les réseaux sociaux, peu après minuit, une vidéo de 20 minutes prétendant livrer une vision complète de ce qui s'est passé pendant la période la plus sombre de l'histoire argentine. On y voit un écrivain argentin libertarien âgé de 36 ans remettre en cause le chiffre de 30 000 disparus pendant la dictature, chiffre retenu par les organisations de défense des droits humains. Agustín Laje critique également les indemnités versées par l'État aux victimes et à leurs proches, met en avant la responsabilité, selon lui, des guérillas qui s'opposaient au gouvernement dans les années 70, déclenchant une vague de violence à laquelle les forces armées ont dû répondre. Bref, toujours la théorie des deux démons que défendent les milieux conservateurs et Javier Milei, une vision négative
sionistes du terrorisme d'État. S'insurge le quotidien Paris Nadossé qui refuse de publier cette vidéo sur son site internet et espère que cet après-midi, lors de la manifestation à l'appel notamment des mères et des grands-mères de la place de Mai, une multitude réclamera à nouveau la vérité, la mémoire et la justice et répondra au négationnisme du gouvernement.
Et puis au Panama, la presse se fait l'écho d'un mouvement de protestation contre la réouverture envisagée d'une mine.
Le Panama n'est pas un pays minier, ou bien encore ce que le Panama a besoin d'extraire, c'est la corruption. Voilà ce que proclament des banderoles tenues par des manifestants. Photo à voir sur les sites des journaux La Estrella de Panama ou La Prensa. Hier, des dizaines de personnes ont protesté dans la capitale contre la réouverture possible de la plus grande mine de cuivre à ciel ouvert d'Amérique centrale, la mine de Donoso, située à 240 km de la capitale sur la côte caribéenne du Panama et qui avait fermé fin 2023. La Cour suprême avait alors déclaré le contrat de concession accordé à une société canadienne inconstitutionnelle. Mais comme le rapporte La Prensa, cette semaine, le président du Panama a annoncé qu'il voulait discuter avec l'entreprise d'une éventuelle reprise de son activité. Colère des organisations de protection de l'environnement qui ont donc organisé cette manifestation hier.
La revue de presse signée aujourd'hui Marine de la Moissonnière.
Le journal de l'Outre-mer.
Et c'est avec vous Serge Massot. Les infirmiers libéraux protestent donc contre les agressions dont ils sont victimes.
Oui, les infirmiers libéraux sont appelés à fermer leur cabinet cet après-midi et des rassemblements sont également prévus devant les agences régionales de santé en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane suite à l'agression en Guyane de deux infirmières la semaine dernière. Le point sur l'enquête avec Enzo Dubessé de Guyane La Première.
Selon nos informations, deux individus résidant à Maripasoula et Papaichton ont été interpellés et placés en garde à vue vendredi après-midi dans le cadre de ces investigations. Ils ont été relâchés samedi soir et aucune mise en examen n'a été prononcée à ce stade. Selon les premiers éléments auxquels nous avons eu accès, trois agresseurs ont été identifiés par la victime. Les faits se seraient déroulés à Maripasoula, dans son logement et dans le cadre d'un cambriolage. L'un des voleurs serait monté à l'étage, dans la chambre de la victime, où il l'aurait agressé sexuellement. Pour rappel, 24 heures à peine après les faits, une autre infirmière se faisait braquer avec arme à feu dans sa voiture à Matoury. En réaction, plusieurs rassemblements dénonçant l'insécurité des personnels de santé ont eu lieu vendredi dans toute la Guyane.
Les associations mobilisées ce week-end pour récolter des fonds pour la lutte contre le VIH à l'occasion du SIDAction. Car en cette période de restrictions budgétaires, les associations manquent de fonds. C'est le cas pour Action SIDA Martinique, qui a vu ses subventions diminuer. Lorraine Marc, la directrice de l'association, est au micro de Mike Erasque de Martinique La Première.
On a à peu près une 50% garantie. On est accompagné par différents partenaires comme l'ARS. Et tout le reste, il faut le rechercher donc chaque année auprès d'autres institutions, mais aussi auprès des privés et puis des dons des particuliers. On essaye de maintenir le niveau d'action sensiblement similaire, mais c'est de plus en plus compliqué à rassembler. Donc on va se concentrer sur l'aide aux personnes, la prévention. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas faire de grandes actions à la hauteur de ce qui aurait été nécessaire justement pour faire de la communication auprès de toutes les tranches de la population. On fait un appel à toutes les entreprises qui ont une démarche de responsabilité sociétale. Nous, on est présents et mobilisés pour faire avec eux des projets qui répondent à leur philosophie RSE et qui peuvent nous aider à avoir une Martinique sans sida en 2030.
Et puis en Guadeloupe, l'enquête sur la mort du maire du Gosier est terminée. La piste accidentelle est confirmée. Il y a un an, le corps sans vie de Cédric Cornet, 39 ans, était retrouvé à son domicile. Il est mort, étouffé, en mangeant un morceau de viande trop gros. Eric Stimfling de Guadeloupe La Première.
L'autopsie de Cédric Cornet, effectuée le 22 mars 2024, soit dès le lendemain de la découverte du corps de l'ancien maire du Gosier, avait déjà révélé l'essentiel. Cédric Cornet a été victime d'une asphyxie mortelle provoquée par la présence d'un gros morceau de viande blanche de 5 cm sur 8 et de 3 cm d'épaisseur qui obstruait totalement son larynx. Les spécialistes parlent plus communément d'une mort par fausse route. À l'époque, l'explication avait pourtant été jugée trop simple par les avocats de la famille. Ces derniers avaient multiplié les demandes de contre-expertise et même déposé plainte pour assassinat au motif que l'élu faisait l'objet de plusieurs menaces de mort. Des courriers anonymes qui se sont révélés autant d'impasses pour les enquêteurs de la police judiciaire. De toute évidence, Cédric Cornet avait, comme à son habitude, voulu manger trop vite, une thèse confirmée par le chauffeur de l'ancien élu qui a indiqué aux enquêteurs avoir par le passé mis en garde son ancien patron à plusieurs reprises, sans grand succès.
Et l'avocat de la famille dénonce une enquête bâclée. Fin de ce journal. Bonne journée sur RFI.
Merci beaucoup Serge Massot. Il est presque 13h30, temps universel. Voilà pour ce RFI midi. Je remercie Vincent Biteau qui était à la réalisation aujourd'hui. Emmanuel Klotz à la rédaction chef. Dans un instant sur RFI, c'est De Vive Voix avec Pascal Paradou. À demain. Bonne journée.
Du 21 au 30 mars, le festival Ciné Latino Rencontre de Toulouse ouvre les portes cinématographiques de l'Amérique latine en 140 films et un large panorama de la production récente. Au programme, compétitions, découvertes, focus, documentaires, sélection spéciale pour le jeune public et une thématique mise à l'honneur, les voix et regards des cinéastes autochtones. Le festival Ciné Latino du 21 au 30 mars. Plus d'informations sur cinelatino.fr en partenariat avec RFI.